Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, bienvenue. Je suis contente de vous retrouver. On va parler aujourd'hui de culpabilité. Comment faites-vous avec cette notion de culpabilité qui nous embête bien souvent ? On peut l'avoir déjà reçue avant d'être parent. On peut aussi déjà l'avoir ressentie au boulot, cette culpabilité. Mais particulièrement, les mamans avec qui je travaille me disent qu'elles sont assommées par la culpabilité qu'elles ressentent de ne pas pouvoir tout gérer de front, leur vie de femme, leur vie de maman, et qu'est-ce que c'est difficile de faire tout en parallèle. C'est pas un sujet frontalement que j'ai abordé dans le podcast, celui qui s'en rapproche le plus, qui était le 97, où j'avais parlé du mythe de la mère parfaite, comme si la mère parfaite pouvait exister, donc on va déjà débunker ça. La mère parfaite n'existe pas, ce n'est pas possible d'être absolument dans les cases que la société veut nous faire cocher. Mais par contre, on peut essayer d'avoir une parentalité qui nous fait du bien à nous, qui nous correspond à nous en fonction de nos histoires, nos valeurs, nos expériences, nos cicatrices et évidemment notre quotidien, puisque si on est maman solo, ça ne va pas du tout être le même quotidien qu'une maman en couple à l'autre bout du monde avec 5 enfants. Donc aujourd'hui, comment faites-vous pour dégager la culpabilité de votre vie ? Est-ce que c'est une émotion qui vient tous les jours ? Est-ce que c'est une émotion que vous revisitez rarement ? Vous arrivez à vivre avec ou alors vous en souffrez ? On va parler de tout ça aujourd'hui. Cette culpabilité, elle a des messages à nous amener ? Creuser ce qu'il y a derrière la sensation de culpabilité ? Et que les réponses ne sont pas dans ce que les gens vont nous dire autour de nous, puisqu'eux, ils servent leur propre projet à eux et leurs propres besoins à eux, et qu'ils n'ont pas forcément la visibilité de ce qu'on peut ressentir et qui nous paraît nous faire sentir coupable. On est vraiment dans une perception de, par rapport à notre intention, par rapport à notre objectif, par rapport à ce qu'on s'était imaginé, ça n'est pas à la hauteur de ce qu'on voulait faire, être, ressentir, produire ou recevoir. Et là, ça nous fait ou une déception, ou une impuissance, ou une culpabilité, en tout cas un inconfort sérieux qui va nous amener vers « pourquoi je ressens ça ?». Si on veut savoir pourquoi on ressent cette culpabilité, ou cette impuissance, ou cette frustration, il faudra qu'on aille voir ce que ça touche en nous comme besoin. Et quand je trouve ce dont j'ai besoin, ça me renforce un peu dans la responsabilité de repasser à l'action sans subir. Quand le jeune enfant il fait des tentatives, il est tout heureux d'explorer, il a sa curiosité, il va tester, il va chuter, il va réessayer. Et si on n'interfère pas avec son développement, il va finir sans doute par réussir, par trouver une résolution de problème, par tâtonner et puis par ajuster. Et quand on leur donne un jugement, une norme, une appréciation, une critique, en leur disant « c'est pas assez bien » ou « c'est pas assez rapide » ou « tu fais pas comme il faut », il introjecte effectivement des « ah bon, ce que je fais n'est pas assez, ce que je fais n'est pas suffisant, je ne suis pas assez bien pour mon parent, je ne suis pas assez bien pour ma maîtresse, je ne suis pas correcte pour mon animateur et tout ça ». Et très vite, il va donc se dire « ce que je fais est mal ». C'est cette polarité qu'on va installer dans certaines éducations qui est « ça c'est bien, ça c'est mal, il n'y a pas de nuance ». Donc si, très petit, on commence à dire à nos enfants « c'est mal, tais-toi, t'es méchant, ce que tu fais c'est pas bien, moi j'ai raison, moi je sais, toi tu sais pas faire », Ça peut très vite le mettre dans cette case d'impuissance, de frustration et de culpabilité de ne pas être à la hauteur de ce qu'il croit des attentes de l'adulte. Ce n'est pas forcément la réalité, ce n'est pas forcément ce qui a été intentionnel hein, de la part de l'adulte. Par contre, l'enfant, à force d'entendre ces phrases-là, ces critiques, ces normes, ces jugements, ces appréciations sur le bulletin, parce qu'après la scolarité continue hein, à l'école, au collège, au lycée, pense que sa valeur, pense que son mérite dépend de l'avis de quelqu'un d'autre que lui. Et s'il a très envie d'être aimé, apprécié et découvert et englobé et d'appartenir, il pourrait se décentrer et faire ce que les autres attendent de lui. Et en n'y arrivant pas, puisque ce n'est pas vraiment son centre et ses valeurs, il pourrait encore souffrir de cette distance-là. Donc il y a plusieurs domaines dans la culpabilité. Il y a la culpabilité vis-à-vis de nous, ce qu'on attend comme résultat et comme repère. On peut parfois nous-mêmes se décevoir de ne pas arriver à produire le résultat qu'on attendait. Mais il y a aussi une culpabilité face à notre cercle proche, nos enfants, nos parents, notre conjoint, notre meilleur ami, de ne pas rentrer peut-être dans le moule des attentes de l'autre. Non pas qu'on doit répondre aux attentes de l'autre, mais cette sensation de ne pas être correspondant à ce que l'autre attend de nous et de savoir l'exprimer, parce qu'effectivement, la communication bienveillante, positive, non violente va être un super outil pour se dégager de la culpabilité, pour reformuler ce que je ressens et ce que l'autre a projeté sur moi comme il faudrait, tu devrais, tu n'es pas assez. Et puis, il y a aussi cette culpabilité face à la norme de la société, aux attentes de la société, aux accords tacites liés au patriarcat, liés au monde professionnel, liés au développement personnel, puisqu'il y a encore des nouvelles injonctions maintenant qu'il faudrait être heureux et tout ça, ça remet une pression supplémentaire. Et les mamans que j'accompagne, qui me contactent en ayant un petit peu honte de se sentir en décalage avec tout ce qui est montré dans la société, dans la norme, qu'on pourrait être une maman positive, on pourrait être une maman qui complimente ses enfants, qui encourage ses enfants, qui est au taquet professionnellement, qui a retrouvé sa ligne, qui a un couple d'enfer, qui fait des surprises et des petits plats bio. Tout ça, c'est tellement étranglant si on prend ça dans son ensemble. Et on peut culpabiliser finalement d'un million de choses dans notre journée. On peut culpabiliser de ne pas assez travailler, on peut culpabiliser de trop travailler, on peut culpabiliser de ne pas avoir passé de temps avec ses enfants ou son mari, on peut culpabiliser de ne pas avoir rappelé sa meilleure amie depuis un mois, on peut culpabiliser de tout parce que c'est lié à ce qu'on se raconte sur la norme attendue de l'extérieur. Si je ne reviens pas à mon centre et à ce que je pense de ma vie, de mes intentions, de mes valeurs, de mes besoins, mais vraiment les miens, pas ceux que les autres attendent, je ne peux pas savoir si ce que je fais est ajusté et adapté ou si ce que je fais dépend de la valorisation et reconnaissance de quelqu'un d'autre. Je prends l'exemple assez régulièrement d'un salarié qui voudrait garder son job. Il pourrait se sentir coupable de ne pas rester plus tard, de ne pas en faire plus, de ne pas aider plus. Parce que s'il a très peur de perdre son job, les flammes d'émotion se mélangent. Il y a à la fois la peur de perdre son boulot, l'insécurité financière, le doute quant à sa valeur, le doute sur la réciprocité ou l'équité dans son travail. Et tout ça se mélange dans un cocktail d'inconfort. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont au travail, qui finissent à l'heure qui est prévue sur leur contrat et qui ont moins de doutes, qui ont beaucoup plus de légèreté. Et ça me paraît intéressant aujourd'hui de poser là que le ressenti que vous avez vis-à-vis de votre situation, si quelqu'un d'autre vivait exactement la même chose que vous, il ne le ressentirait pas d'une manière pareille, similaire. Ce ne serait pas aussi coupable pour lui. Ce ne serait pas aussi culpabilisant pour lui. Donc notre vision de la culpabilité, elle est liée à tout ce qu'on a vécu quand on était petit, tout ce qu'on a vécu comme appréciation du monde extérieur. Il y a nos parents, il y a nos professeurs, nos formateurs, nos premiers patrons, nos premières relations amoureuses, nos amis aussi, qui au présent maintenant nous font nous sentir à l'aise, en verticalité, en confort, plutôt stable sur nos décisions, sans se laisser impacter par ce que les autres en pensent, en étant prêt à Décevoir, par exemple, c'est un épisode dont on parle souvent, le 94. Si je me sens capable de décevoir les attentes des autres, peut-être que je me sens moins coupable. Si je ne me sens pas capable d'affronter, de poser mes limites, de dire que j'existe, d'aller au-delà de ce qui est demandé en disant bah non, là je suis désolée, mais ça ne va pas être possible. Donc se confronter, aller plus loin que ce qui nous est demandé, refuser, dire non. Si je suis capable de dire non, de poser mes limites, d'accepter que là je suis pas en bonne énergie ou je n'ai pas le temps de m'occuper de cette personne, je vais peut-être me sentir moins coupable. Le fait d'étiqueter l'élève, l'enfant, notre enfant ou nos élèves va lui laisser croire qu'on sait mieux que lui le résultat de ses actions, qu'on l'associe à son être, hein, vraiment à ses qualités, à ses compétences, alors que c'est notre vision par rapport à notre attente. Si je suis enseignante, j'aimerais la réussite pour chacun de mes élèves et la façon de tourner ma phrase pour dire à l'élève qu'il a complété mes attentes ou non, qu'il a réussi l'exercice ou non, peut être formulé de 24 façons différentes. Mais suivant la formulation que je vais choisir, l'élève se sentira bien ou se sentira coupable de ne pas avoir atteint l'objectif de l'examen, de la note et tout ça. C'est vrai que si on extrapole ça aux examens, il y a des attendus, mais qui ne dépendent pas que de la note finale, que de l'appréciation du professeur. Je vais aussi décorréler le comportement d'un résultat chiffré, tout comme avec le jeune enfant, on va pouvoir enlever l'étiquette de « tu m'as déçu, tu n'es pas assez bien, je ne t'aime plus, tu es méchant ». Donc tout ce thème autour des étiquettes sur un enfant ou ce thème des étiquettes sur un élève va appuyer de plus en plus sur sa sensation de ne pas être correct dans l'attente de l'autre, de ne pas être suffisant dans l'attente de l'autre. Et on s'éloigne du coup de l'amour inconditionnel ou, à minima quand c'est un élève, du respect entre deux humains. Je ne suis pas meilleur que toi, je suis là pour transmettre, je suis là pour donner des informations, je te guide pour que tu comprennes, pour que tu ailles mieux, pour que tu aies des clés et surtout des ressources pour ton avenir, mais je ne suis pas le juge suprême, je ne suis pas celui qui décide de ta vie et de ton mérite. Et parfois, quand on est pris dans cette impression de domination par le statut, par le poste, ou même par le métier, hein, parce qu'il y a certains mentors et coachs qui s'improvisent aussi, je sais quelle est ta valeur en fonction de ce que tu fais. Je nous invite toutes à réfléchir là aujourd'hui sur quand on pose un avis ou une appréciation ou un commentaire dans les bulletins quand on est enseignant, de voir l'impact de cette phrase sur l'estime de la personne, de l'enfant, de l'élève, tout comme son impression d'être quand même compétent ou performant ou en progression. La place de l'erreur dans ce jeu-là est tellement importante. En ce moment, l'exercice de maths n'a pas été réussi. La question n'a peut-être pas été comprise. C'est différent de « tu es nul ». Tu devrais faire le contraire de qui tu es. T'es irrécupérable. Fais plutôt littéraire que mathématique. Des choses qui sont violentes, des choses qui sont enfermantes, des choses qui sont étiquetantes et qui ensuite pèsent sur la motivation, l'envie, l'énergie d'un jeune qui voudrait réussir malgré ça. Alors certains destins nous diront « c'est grâce à ces critiques que j'ai pu devenir un champion ». Mais là, dans la société actuelle où on minimise quand même un peu l'effort et on est plutôt dans le plaisir immédiat, à force d'entendre des critiques, des injonctions, des étiquetages et quasiment du mépris hein, de la part de certains dirigeants, adultes, enseignants, parents, le jeune a quand même du mal à sortir de ce marécage. Et j'étais pas partie sur le focus enfant-élève, mais ce qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'en grandissant, cet enfant-là va quand même douter de plus en plus de ses décisions, perceptions par rapport aux autres. Et j'aimerais tant qu'il soit fort dès le début pour se dire « Ok, bah, apparemment ça ne convient pas à mon prof, c'est pas à la hauteur de ses attentes, mais ça ne dit rien de moi dans ma valeur, ça ne dit rien de moi dans ma capacité à avancer. Ça dit quelque chose de moi sur le devoir ponctuellement de ce jeudi-là. Ce jeudi-là, mon devoir n'est pas à la hauteur du prof, Et il m'a bien fait comprendre en mettant son appréciation sur la feuille. Parce que sinon, quand on devient parent, ou quand on devient un professionnel, ou qu'on monte en compétence dans une autre sphère, toutes ces phrases-là de dépréciation, elles risquent de remonter à la surface. De se dire, est-ce que je suis capable en fait? Pour qui je me prends? Est-ce que je suis à la hauteur? Avec tout le petit dossier syndrome de l'imposteur, tout le petit dossier est-ce que j'ose postuler alors que j'ai pas toutes les compétences de la liste? Là, il y a aussi une différence culpabilité homme et culpabilité femme. Culpabilité homme, c'est quand même beaucoup plus nuancé que la culpabilité des femmes. Je travaille plus avec les femmes qu'avec les hommes, mais les femmes ont un dossier culpabilité qui fait quand même 5 fois le poids des dossiers culpabilité de certains hommes. Et on a évoqué dans plusieurs rooms et dans plusieurs épisodes que nous, on est dans le soin en tant que femme et on a été élevé. Hein, la question du genre, je l'ai abordée là dans l'épisode 110. La question d'élever nos filles de manière à ce qu'elles prennent soin de tout le monde, qu'elles soient à l'écoute de tout le monde, ça ne leur rend pas service sur le long terme non plus. Puisqu'on leur dit, c'est ça ton rôle dans la vie, dans la société, c'est de prendre soin des autres. Prendre soin de tes enfants, de tes élèves, de tes proches, de ton mari, de tes parents, de tes beaux-parents, de la veuve et de l'orphelin, c'est chouette pour l'empathie mondiale, nationale et citoyenne. Mais le dosage qu'on va faire par rapport à nos filles, si on ne leur dit pas à un moment aussi, pense à toi, ne mets pas toujours l'autre devant toi, ne prends pas tout ton temps et ton énergie pour sauver la planète, pense aussi à ta propre trajectoire, à ta propre vie. On n'est sur Terre que pour 90 ans, 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de notre parcours aussi pour nous? Et si on élève nos filles que dans oui, sois une gentille fille, sois sage, sois forte, travaille plus, fais plus d'efforts, sois jolie, et on leur rajoute des critères de réussite qui ne sont pas dans la liste des critères de réussite homme, garçon. Sur la question du genre actuel, hein, en 2023, j'espère que ça évoluera. Mais ça veut dire que le dosage de culpabilité d'une jeune fille est déjà, dès 5 ans, multiplié par tout ce qu'elle a entendu sur le rôle de la femme. Donc non seulement on doit prendre soin des autres, mais on ne doit pas s'oublier, mais on doit aussi être une bonne professionnelle, et on doit quand même avoir une silhouette correcte, et on doit élever nos enfants correctement, sans leur coller des traumatismes à vie. Imaginez le nombre de cases à cocher pour quelqu'un qui se lance dans la vie active, qui a un enfant et qui est en couple. Et je pense que toutes les personnes qui écoutent se disent, bah, évidemment, j'ai une checklist dans ma tête de tout ce que je devrais faire pour être à la hauteur des attentes extérieures. Est-ce que je peux redescendre ma liste pour moi, avoir des attentes raisonnables vis-à-vis de ma silhouette, de ma façon d'élever mes enfants, de ma façon d'être une bonne professionnelle, une amie, une conjointe, pour que ce ne soit pas étouffant dès que j'y pense? Qu'est-ce qui ferait aujourd'hui comme critère que vous vous sentiez mieux comme femme, comme maman, comme épouse, comme professionnelle? Non pas 12 critères, hein, juste un critère. Si on se base sur les ressentis, en effet, ils sont pas non plus objectifs, hein, ils sont complètement subjectifs, mais est-ce que ce ne serait pas le plus important? Que je me sente à ma juste place dans le rôle que je me crois avoir décidé pour moi? Si des fois je crie sur mon enfant, si des fois je dis à mon mec que là, non, je ne peux pas l'aider à faire ce qu'il m'a demandé, si des fois je dis à mon patron que ce ne sera pas possible, je m'engage à me respecter tout autant que je communique mes limites aux autres. Et c'est très compliqué. C'est un chemin de vie. Parce qu'on est tellement habitué à rentrer dans les attentes des autres. Et moi, je parle aussi pour moi, hein. J'ai fait ça pendant 40 ans. Ça fait à peine 5 ans que je commence à oser décevoir, oser poser mes limites, oser dire non, et même avec mes enfants, me dire, ben, j'admets, je ne suis pas une bonne maman. Il y a des moments où je ne suis pas une bonne maman. Mais j'ai plein d'outils maintenant pour le conscientiser plus vite et pour ajuster plus vite. Mais si on garde cette charge de culpabilité, de tu devrais, il faudrait, tu n'es pas une bonne maman si, tu n'es pas une bonne épouse si, et se conformer à des listes sans fin à cocher, on aura du mal à dégager la culpabilité de notre vie. Nos besoins, nos visions, nos projets, comme je vous dis souvent, hein, d'aller scanner votre arc-en-ciel de besoins et vos flammes dans votre cheminée des émotions, Moi, je voudrais raccrocher un tout petit peu ce que j'ai extrait des séances avec certaines mamans, parce que ça pourra parler à celles qui nous écoutent. Dans le développement personnel, on va vous dire, ben, si vous n'arrivez pas à avoir le contrôle sur le résultat de cette action, c'est que ça ne dépend pas de vous. Si ça ne dépend pas de vous, vous n'avez pas de prise dessus. Donc, cessez de vouloir forcer en fait quelque chose qui ne dépend pas de vous. Et ensuite, on s'oriente vers le mot d'acceptation, vers le mot d'apprivoiser l'effet de ce résultat sur nous, plutôt que de dire c'est injuste ou c'est pas normal, ou de bloquer en fait. Si on bloque sur le fait que ben ouais, cette note, cet échec est relatif, ça devient une expérience. Et on n'a pas parlé encore de ça aujourd'hui, mais il y a aussi toute cette phase de comparaison. Si je me compare à quelqu'un d'autre qui n'a pas les mêmes attentes de la vie, qui n'a pas les mêmes enjeux financiers, qui n'a pas les mêmes expériences ou la même formation ou la même culture, pourquoi est-ce que son avis aurait autant d'impact sur moi ? Je ne peux pas être dans les mêmes critères de réussite que quelqu'un qui n'est pas précisément dans mes chaussures aujourd'hui. Et pourtant, je culpabilise de ne pas avoir les résultats que les autres pensent bien pour eux. C'est vraiment si vous habitiez dans un pays où tout le monde fait A plus Z plus Y et que vous, vous n'ayez pas du tout envie de faire A plus Z plus Y, il n'y aurait normalement pas à se torturer si vous n'en avez pas envie, si vous n'en avez pas besoin, si ce n'est pas utile pour vous, pourquoi se forcer ? Après, il y a une juste limite entre les règles de la société et puis ce qu'on est prêt à négocier avec nous-mêmes. Dans la notion de discipline et de persévérance, on sait que s'il n'y a pas un petit effort, si on ne cherche pas plusieurs options, si on n'essaye pas à nouveau, ça n'arrive que très rarement, tout cuit et facilement et de manière fluide. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour dégager cette culpabilité ? Il y a une zone d'acceptation de « bon, c'est arrivé, qu'est-ce que j'en pense ? Qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de ça ? Est-ce que ça dépendait que de moi ? Est-ce que je peux changer quelque chose ? Quelle action je pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas ? Ou quelle action je pourrais faire pour sortir de cet inconfort là maintenant que je ressens ? Et c'est très normal de le ressentir. Si je veux amoindrir la sensation d'inconfort, si je veux vivre avec ma culpabilité, pour moi la culpabilité c'est une petite flamme qu'on a tout le temps dans sa cheminée des émotions. Et quand je sais qu'elle est là, cette petite flamme de culpabilité, soit je la vois grandir et je peux aller l'observer en me disant « Tiens, 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 qu'est-ce qui s'est passé pour que ça grandisse et que ça commence à prendre plus de place dans ma cheminée que des flammes agréables, de sérénité, de gratitude, de fierté, de satisfaction ? Qu'est-ce qu'elle a à me dire sur comment je me sens ? Est-ce que peut-être j'ai été plus loin que mes limites ? Est-ce que peut-être j'ai fait trop plaisir aux autres et que je me suis oubliée ? Est-ce que peut-être j'ai fait comme les autres au lieu de revenir sur mon centre à moi ? Et il y a plein de stratégies à opter sur votre éventail de stratégies. Et le but en séance individuelle, c'est de voir justement pourquoi elle s'est déclenchée cette culpabilité par rapport à ce que vous pensiez de vous-même. Parce que moi, je ne saurais pas pourquoi elle s'est déclenchée. C'est vous qui allez retrouver ce fil et cette pelote. Parce qu'on ne pourra jamais vous donner une solution, un outil exact comme une science, puisque vos besoins, vos émotions, vos projets et vos références sont par définition singulières, ne sont pas les miennes. Et quand on remet la clarté sur « Ok, je me sens comme ça, je pense que ça vient de cet élément-là, qu'est-ce que je me raconte sur cet élément-là ? Est-ce que je peux changer quelque chose ? Qu'est-ce qui va m'apporter facilement ? Ou qu'est-ce que je pourrais faire mais qui va me demander plus d'efforts ? Est-ce que je suis prête à faire cet effort ou c'est pas le bon moment pour moi ? Est-ce que je peux lâcher prise ou est-ce que lâcher prise c'est trop difficile pour l'instant ? Ou est-ce que je peux me faire accompagner pour arriver à lâcher prise ou pour mettre en place ce plan d'action qui me baisserait l'intensité de ma flamme de culpabilité ? Les mamans qui viennent des fois en séance me disent « Mais moi je pleure dans ma chambre, dans ma baignoire, dans mes toilettes. Je me sens une merde en fait. Je me sens une maman pas à la hauteur. Je me sens nulle. » Je pensais réussir, j'avais tout lu sur la parentalité. Et là, je me retrouve à crier, je me retrouve à taper. Je me sens vraiment mal, je me sens nulle. Et donc, on va dégager, pour le coup, je garde ce verbe-là, on va dégager tout ce qu'elle s'est raconté sur ce que doit être la parentalité, sur ce que doit être l'éducation positive, sur ce que doit être l'éducation bienveillante. Parce que on se promène avec des cargaisons entières de « il faudrait, je devrais ». Donc déjà, on va enlever tout ça. Si on veut contrôler ce qu'on ressent, si on veut contrôler cette culpabilité, si on veut être dans l'action et dans la résolution de problèmes et qu'on veut dompter, hein, ça ne pourrait pas marcher parce qu'on veut imposer quelque chose à nous-mêmes qu'on n'a pas encore compris. Donc il y a une sorte d'évitement, il y a une sorte de couvercle, il y a une sorte de refus, hein, quelque part de déni, de ressenti. C'est comme si on jouait contre nous-mêmes. Et si on joue contre nous-mêmes, ben, on ne fait plus alliance avec une partie de nous. Donc, on est en plein dilemme intérieur et toute l'énergie qu'on va passer à ce dilemme intérieur, il ne pourra pas être mis au service d'une action pour notre famille, pour notre boulot, pour notre bien-être. Puisqu'on est déjà en train de nous refuser à l'intérieur, de ressentir ce qu'on ressent, de penser ce qu'on pense, ou alors il y a un conflit entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense. Donc, intérieurement, il y a un combat qui se livre et c'est le cas très souvent. Il n'y a pas qu'avec la culpabilité qu'on fait ça. Mais là, pour le coup, la culpabilité nous met un arrière-goût un peu amer de « mais t'es pas capable, t'es pas compétent, t'y arrives pas, les autres vont juger que, les autres vont faire que ». On réalimente, on remet une bûche dans le feu en se disant « mais tout le monde va voir que je n'y arrive pas, que je suis nulle ». Au lieu de faire alliance avec nous en disant « bah là, bah effectivement, le résultat était pas terrible ». Est-ce que c'est moi qui pense que c'est pas terrible? Est-ce que c'est les autres? Qui pense ça? Qui voudrait que ce soit autrement? Est-ce que moi, je m'accorde le droit de faire comme ça? Est-ce que ça fait sens pour moi de continuer à agir comme ça? Est-ce que c'est de la culpabilité qui a été projetée par l'extérieur en bonne culpabilisation émotionnelle? Ou est-ce que c'est la mienne? Et puis, ben, est-ce que je peux rester dans cette culpabilité un moment? L'accueillir? Est-ce que je peux rester avec cette culpabilité et qu'elle me donne une idée de transformation, de solution, de traversée, de moyens de locomotion, d'action inédite peut-être. Parce que les moments où je me suis sentie le plus coupable, ça a été aussi des moments de prise de conscience. Un moment où je me suis sentie la plus coupable, c'est un vendredi soir quand je rentrais de l'école avec ma grande et j'avais passé toute la semaine à performer, à faire, à être dans l'action, à être dans le yang et tout. On sortait d'un conseil d'école, j'en pouvais plus. Au niveau physique et fatigue intellectuelle, mentale, émotionnelle, j'en pouvais plus. Et là, elle s'est mise à chouiner, à râler. Elle devait avoir 8 ans, je crois. Et elle m'a fait une scène, elle m'a fait une crise. Et je l'ai regardée et j'ai eu une montée de colère, de violence, comme si je voulais la rendre responsable de mon état intérieur. Et je lui en ai collé une dans l'ascenseur de l'appartement. Elle s'en souvient encore. Et ça a été un des moments de culpabilité extrême, puisque je ne suis pas la maman qui a fait ce geste-là dans l'ascenseur, et pourtant je l'ai fait. Je ne veux pas être cette maman qui frappe son enfant, et pourtant je l'ai fait. Et ce moment de culpabilité, il a été évidemment formateur pour la suite de mon parcours, hein, c'était il y a 8 ans, parce qu'il a déclenché une dose de prise de conscience que, ben oui, mais Séverine, t'as pas écouté ton état, t'as pas écouté ton énergie, t'as pas pris soin de toi. Donc comment veux-tu être encore équilibré et à l'écoute de ta fille si toi-même t'es sur la réserve, si toi-même t'es à 0%? Il y a eu ce moment-là, voilà, d'épiphanie en disant je ne peux pas continuer à m'épuiser moi si je veux garder une relation saine avec ma fille. Donc les moments de culpabilité extrême sont peut-être aussi les moments qui sont puissants comme prise de conscience. Et je nous le souhaite, si on en revit prochainement des gros dossiers comme ça, c'est qu'est-ce que j'apprends de cette épreuve? Qu'est-ce que j'apprends de cette culpabilité, si c'est la mienne, hein? Si c'est quelqu'un d'autre qui vous la balance, non. Mais là, c'était ma culpabilité vis-à-vis de mon rôle de maman. Je me suis dit, Séverine, ça va pas du tout, quoi. Agis. Parce que là, tu vas le regretter si tu continues comme ça, et t'as pas envie de le regretter. T'as pas envie de continuer à faire des actions qui sont pas en lien avec ce que tu veux. C'est qu'autour de nous, on est parfois induit dans « c'est comme ça qu'on fait puisque tout le monde fait ». Et j'ai aussi parfois ce retour des mamans, parce qu'autour d'elles, elles voient des mamans qui crient et qui tapent et qui punissent. Et elles se disent « ben moi, je veux faire autrement, mais autour de moi, je ne vois que ça. Donc, cherchons à diversifier ce vers quoi on veut tendre pour s'orienter vers des pistes et des gens qui vont ramener de la possibilité de changement. Si on reste qu'avec des gens qui ne font pas ce qu'on veut, et moi, ce thème de la violence, je le voyais ensuite partout. Je voyais de la violence partout, puisque moi-même, je me jugeais d'avoir été violente avec ma fille. Et de voir qu'il y avait de la violence partout a peut-être aidé, ou peut-être ralenti, ou peut-être les deux, je ne sais pas, mon chemin vers la communication non violente et vers la douceur et l'empathie au quotidien avec les élèves et avec ma fille. Mais en tout cas, ça a été un déclic. Ce qui fait que si cette culpabilité, elle est tellement souffrante actuellement, quel que soit votre domaine, ça peut être une culpabilité qui pousse aussi à un changement, qui pousse à prendre un livre qui traite de ce sujet-là, aller voir un expert, écouter un podcast sur ce sujet, aller voir quelqu'un que vous connaissez qui a déjà réussi ça. Ce serait valable dans le sport, ce serait valable dans l'alimentation, ce serait valable sur n'importe quel thème. Mais si la culpabilité, elle est telle que vous vous sentez mal et amoindri provisoirement, soit ça vient de vous et vous pouvez en faire quelque chose, soit vous pouvez aller demander de l'aide à l'extérieur. Et puis si ça ne dépend pas de vous, et si c'est encore une fois la société qui vous propage cette impression de « il faudrait » d'injonction et tout ça, dans ce cas-là, vous arriverez peut-être plus facilement à la dégager. Mais ça reste des moyens très différents d'un individu à l'autre. Et suivant la culpabilité que vous avez reçue, ou que vous avez créée, ou que vous avez alimentée, elles peuvent aussi se superposer. Moi, je pense que j'ai une culpabilité héritée de mes parents, qui eux-mêmes l'ont de leurs parents, et ça revient un peu à l'épisode sur les peurs. La culpabilité, ça peut aussi se transmettre. Il y a un certain héritage de « il faudrait quand même, la génération, la loyauté ». Ouh là là ! Donc, si on peut se sentir léger, en détente, et qu'on peut couper un petit peu les cordes de tout ce qui nous pèse maintenant, ça irait mieux. Mais comment faire ? Je vous laisse chercher hein, autour de vous, si vous avez des professionnels qui parlent de ces thématiques-là, pour éviter de continuer à souffrir de cette culpabilité. Moi, il y a des moments où je me sens encore très coupable d'avoir fait ce que j'ai fait dans le passé, mais je peux aller les retravailler si je veux. J'ai quelques outils pour les retravailler. Maintenant, il y en a, je ne suis pas prête à les travailler encore. Il y en a que je mets de côté pour plus tard, quand j'aurai l'énergie et le temps. Mais revenons aussi à ce « on fait de notre mieux avec le bagage qu'on a » qu'on ne peut pas savoir encore faire autrement si on ne l'a pas appris. Il y a des mécanismes dans le cerveau, il y a une plasticité qui est possible, mais parfois on n'a pas encore l'outil, on n'a pas reçu l'outil. Et je suis loin d'avoir tous les outils, bien entendu. Mais ce que j'ai construit en classe, ce que j'ai construit avec ma deuxième fille, ce que j'ai construit avec mon nouveau couple, ça a été des petites pierres qui ont fait reculer une culpabilité de ne pas mériter de bonheur, de ne pas être assez pour ceci, de ne pas en faire assez, de ne pas être dans le soin suffisamment, alors que j'étais déjà dans le soin. J'étais déjà suffisante. Donc maintenant, j'arrive à me le reformuler et à le ressentir, ce que je n'arrivais pas à faire il y a 6, 7, 8 ans. Donc si vous arrivez à ressentir que c'est passager, que ça va passer, que c'est pas trop souffrant, ben profitez-en. Parce qu'il y a tellement de gens autour de nous qui vivent en perpétuelle réflexion de « c'est pas assez, je suis nulle, je suis pas compétente, je m'y prends pas bien, je sais pas faire, j'ai honte » et la culpabilité peut glisser après vers une autre flamme. Une flamme de honte, une flamme de peur, une flamme de douleur et tout. Au tout début de la communication non-violente, quand j'ai découvert ce monde-là, je me disais « oh là là, c'est génial, si tout le monde pouvait connaître ça !» Mais on a un fonctionnement dans notre manière de communiquer qui peut avoir été hérité, hein, une fois de plus. C'est sûr que si ça crie à la maison depuis qu'on est enfant, ou si ça veut avoir raison, ou si ça veut convaincre, c'est un fonctionnement de communication qu'on a pu observer presque toute notre vie. Et savoir qu'on peut communiquer autrement, qu'on peut communiquer sans vouloir convaincre l'autre, sans vouloir dominer l'autre, sans vouloir soumettre, et qu'on peut juste communiquer pour échanger, pour contribuer, pour apprendre, pour avoir du plaisir, pour se confier, pour ressentir des belles choses. Mais sur ce thème de la communication qui est peut-être moins émotionnel a priori, on voit qu'il y a déjà des outils énormes. Mais ceux qui ne connaissent pas ces techniques de communication ne savent pas à quel point ce serait léger pour eux de les utiliser, de les comprendre, de les avoir en connaissance dans leur panier. Et ce sera la même chose pour les outils d'indépendance émotionnelle dans la parentalité ou toute technique thérapeutique et d'énergie. Et ces moments-là où l'expert va vous présenter une nouvelle façon de voir, moi, je le vois comme un voyage, vraiment. Un nouveau continent s'ouvre à nous. Et quand la formatrice en CNV a commencé à expliquer tout ça, je me suis dit, oh, c'est génial. Il y a un nouveau monde qui commence pour moi. Parce que j'ai pénétré dans une zone que je n'avais jamais imaginée. J'avais jamais imaginé qu'on était constamment en rapport de force quand on parlait avec quelqu'un. Donc, c'est des prises de conscience qui sont sur notre chemin. Peut-être à 20 ans, peut-être à 30 ans, peut-être à 60 ans. On les aura même dans le désordre. C'est ça qui est beau dans notre vie, c'est qu'on ne va pas récolter tous les outils en même temps. Ils vont venir au détour d'une situation, d'une expérience de vie, bonne ou mauvaise, d'une rupture, d'une rencontre, de belles rencontres aussi. Et au fur et à mesure qu'on en aura besoin, on pourra aussi créer une rencontre avec une expertise dont on se sentirait peut-être soulagé, allégé. Donc n'hésitez pas à tester des choses qui vous attirent autour de vous, parce qu'il y a peut-être derrière cette porte un bien-être et une légèreté qui redescendraient la culpabilité, certes, parce que c'est le thème du jour, mais qui apaiseraient d'une manière générale vos ressentis, vos flammes d'émotion ou votre comportement au quotidien. La lourdeur qu'on peut ressentir à être tout le temps dans ce même quotidien, métro, boulot, dodo, les enfants qui crient, le conjoint qui râle, quel est le sens de la vie et tout ça. On n'est pas tous à des crises existentielles, heureusement, mais quand on rencontre des gens autour de nous qui sont au plus bas et qui ont perdu une motivation et une estime d'eux, il y a sans doute des portes à ouvrir vers lesquelles nous, hein, on peut être des passeurs d'informations. Vous pouvez être des passeurs d'informations. Et c'est surtout envisager qu'une solution est possible. Il y a des solutions. Prenez le temps de vous dire que cette culpabilité, elle a quelque chose vers quoi vous emmener. Il y a un voyage. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et puis prenez bien soin de vous, de vos flammes et de vos besoins.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.